Je vous souhaite la bienvenue à cette dernière de nos cinq conférences intitulée « La Bible répond aux témoins de Jéhovah ». Je vous signale que la première conférence avait comme titre « La divinité du Christ », la deuxième « La personne et la personnalité du Saint-Esprit », la troisième « L'âme, la mort et l'enfer », hier après-midi, la quatrième, les 144 000. Et aujourd'hui, comme pour résumer toutes ces idées dans une seule conférence, aujourd'hui, M. Hendrix va nous parler du salut, la question du salut, comme il est traité par les témoins de Jéhovah et comme elle est traitée par la Bible. Je voudrais, bien que vous ayez entendu peut-être même plusieurs fois cette déclaration, la lire encore une fois, assez rapidement, puisque nous avions décidé de partager cette déclaration chaque fois, nous allons le faire quand même, pour être certain que nos buts sont connus. Nous qui faisons ces conférences sommes tous des chrétiens qui n'acceptent que ce nom, c'est-à-dire le nom de chrétien, et qui ne suivons que le Christ comme chef spirituel et la Bible comme autorité religieuse. Nous sommes tous membres d'assemblées de chrétiens formant des églises du Christ. Les quatre conférenciers viennent des assemblées de Dijon, Lyon, Grenoble et Genève. Dans ces conférences, nous examinons quelques doctrines des témoins de Jéhovah à la lumière de la Bible, pour montrer à quel point les témoins se sont égarés de la vérité de Dieu. Et nous faisons cela dans le but d'amener les témoins à la vérité, et aussi d'avertir et de toucher ceux qui sont susceptibles d'être influencés par leur enseignement. Et il y en a beaucoup dans notre ville. Comme il a été dit dans la lettre que beaucoup d'entre vous ont reçue, nos motivations sont plusieurs. En premier lieu, l'amour pour Dieu et pour la sainteté de sa parole. En second lieu, notre préoccupation au sujet des témoins victimes d'une série de fausses doctrines, une série accablante de fausses doctrines. Et en troisième lieu, la nécessité de vérifier toutes choses dans le domaine des doctrines religieuses ainsi que nous l'enseigne la Bible. Cette citation que nous avons trouvée très utile et très importante dans ces conférences, ou comme introduction à ces conférences, je la lis encore une fois. Les témoins dénoncent sans ménagement les faux principes. C'est une citation des témoins de Jéhovah. Les témoins dénoncent sans ménagement les faux principes de toutes les religions, dévoilent leurs théories blasphématoires et les traditions humaines préjudiciable à la vérité contenue dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Mais jamais il n'attaque les irresponsables gens de bonne volonté qui ont été aveuglés et réduits à l'esclavage spirituel pour avoir ajouté foi aux fausses doctrines d'une religion quelconque. Les hommes de bonne volonté montrent leur appréciation de l'amour manifesté par les témoins en étudiant la Bible avec eux. En personnes honnêtes, ils désirent servir Dieu. La dénonciation des erreurs religieuses ne les scandalise pas et ils ne sont pas davantage troublés par la révélation des sublimes vérités bibliques. Lors de ces conférences, nous avons demandé que les choses soient inversées et nous avons fait appel aux témoins de se montrer, eux, des hommes de bonne volonté également, des personnes honnêtes qui désirent servir Dieu, des gens que la révélation des sublimes vérités de la Bible ne scandalise pas. Et nous leur demandons de montrer leur appréciation de notre amour en étudiant la Bible avec nous. Les quatre hommes qui présentent, celui qui présentera cette étude cet après-midi, ils ont tous voué leur vie au Christ et à sa parole. Et c'est à cette parole qu'ils ont recours pour prouver ce qu'ils vous disent. Ensuite, il est évident que vous devez prendre vos propres décisions là-dessus. Et il est également évident que vous devez être responsable de vos décisions comme nous le sommes des nôtres. Ce n'est pas un débat. Ainsi, nous demandons que si vous avez des questions, que vous les posiez après la fin de la session et le conférencier sera très heureux de vous répondre de son mieux à ce moment-là. Je vous présente donc pour la dernière conférence M. Arlin Hendrix, prédicateur de l'Église du Christ à Lyon.
D'abord, je ne sais pas si je peux dire que ceci va être un résumé de tout ce qu'on a déjà vu dans les quatre dernières conférences, mais plutôt une réponse peut-être aux doctrines que nous avons vues dans ces conférences. Je suis content d'être devant vous, d'avoir cette occasion, et je vous remercie d'avance de votre attention, car le sujet que nous allons étudier cet après-midi, pour moi, c'est le sujet le plus important de la Bible, c'est le sujet du salut. C'est le sujet qu'on trouve dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et on va voir cela en détail, ou pas en gros détail, mais en détail cet après-midi. Afin d'éviter tout malentendu au sujet de ce que je crois, je commence par vous présenter ma foi personnelle. Je crois que Dieu existe, qu'il a créé le monde et toute vie qui s'y trouve. Je crois que l'homme, par son propre choix, s'est écarté de la volonté de Dieu, son Créateur, et qu'ainsi le péché et la mort ont été introduits dans le monde. Je crois qu'avant la fondation du monde, comme dit l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 1, le verset 4, que Dieu a établi son dessein éternel pour la rédemption de l'homme. Je crois qu'en vue du salut de l'homme, c'était dans le dessein de Dieu qu'il envoie son Fils unique afin de le donner comme sacrifice de substitution et d'apaisement à la place de l'homme pécheur. Je crois que Dieu a choisi un homme et sa descendance pour être le moyen par lequel Dieu introduirait son Sauveur dans le monde. Cette descendance, le peuple juif, appelé aussi dans la Bible par le nom d'Israël, a été choisie non pas parce que c'était un peuple nombreux, et donc un peuple puissant, mais, comme dit Moïse, parce que Dieu l'aimait, et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à ses pères, notamment à Abraham. Vous le trouverez en Deutéronome chapitre 7, le verset 8. Et je vous fais remarquer que les passages que je vais citer sont donnés en ordre dans la feuille ou sur la feuille que vous avez devant vous. Je crois que dès le début des temps, Dieu a choisi certains hommes et parfois certaines femmes comme porte-parole afin de communiquer sa volonté à l'homme. Ces porte-paroles de Dieu, appelés aussi dans la Bible du nom de prophète, avaient la tâche de maintenir le peuple de Dieu, le peuple juif, dans la fidélité au commandement de Dieu et de les préparer pour la venue du roi, que l'on appelle couramment le Messie, le nom hébreu, ou le Christ, le nom grec. Je crois que Dieu a établi une alliance avec ce peuple, Israël. Mais puisqu'Israël était infidèle à Dieu, Dieu a été obligé, selon les conditions de cette alliance, de le rejeter à jamais. Je crois que par conséquent de ce rejet, et selon son dessein, Dieu, autant marqué, a établi en son Fils, Jésus, une nouvelle alliance. Et je crois que l'Église et le corps spirituel de Jésus, composé de tous ceux qui par la foi se soumettent aux enseignements de Jésus. Et donc, ceux de l'Église font partie de la nouvelle alliance. Je crois que cette Église, c'est Israël spirituel. C'est l'Israël spirituel, la vraie descendance d'Abraham. Je crois que celui qui reste fidèle jusqu'à la mort aura la couronne de vie. Je crois aussi qu'il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ et qui marche non selon ses propres désirs charnels, mais qui marche selon la volonté de Dieu. Il va donc sans dire que je crois que Dieu a révélé sa volonté aux hommes par le moyen des personnes inspirées qui ont parlé ou écrit de la part de Dieu. Et ce qui a été écrit se trouve dans ce que nous appelons le livre, la Bible. Je crois que ce n'est pas à nous, humains, faibles et imparfaits, d'interpréter les Écritures inspirées, mais plutôt de les sonder et de les mettre en pratique, sans mettre en question ce qu'elles enseignent. Car, comme dit l'apôtre Pierre, et je vous lis un passage qui se trouve en 2 Pierre, chapitre 1, les versets 20 et 21, « Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. » Dieu est donc le seul interprète de sa parole, le seul interprète de sa volonté. Je crois que là où il y a des passages difficiles à comprendre, il faut toujours chercher à les comprendre à la lumière d'autres passages plus clairs, et jamais le contraire. Jamais le contraire. Du fait que j'accepte la Bible comme inspirée, j'accepte ce qu'elle révèle. Je crois que Dieu est le Tout-Puissant, éternel, omniprésent et omniscient. Je crois qu'il s'est révélé à l'homme dans son Fils Jésus, qui est divin et donc éternel, tout-puissant, omniprésent, omniscient. Je crois au Saint-Esprit, non seulement comme une force agissante, mais comme Dieu lui-même, omniscient, omniprésent, éternel et tout-puissant. Et je crois qu'il habite spirituellement dans le corps de tout chrétien, c'est-à-dire son temple. Je crois que c'est le dessein de Dieu que toutes les personnes fidèles, celles qui sont mortes avant la Nouvelle Alliance et celles qui sont sous la Nouvelle Alliance, sont prédestinées à vivre éternellement aux cieux avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois que les infidèles, les rebelles et ceux qui ont refusé d'accepter la grâce de Dieu seront punis éternellement d'après ce qu'ils auront librement choisi, loin de la face de Dieu, car ils sont inexcusables. Le dessein de Dieu donc a donc pour but de sauver l'homme de sa propre ruine. Voilà le but ou le dessein de Dieu, de sauver l'homme de sa propre ruine. Sans Dieu, comme dit Paul en Éphésiens chapitre 2, sans Dieu et sans Christ, l'homme est sans espérance et sans paix. C'est pour donner de l'espérance et de la paix que Jésus est devenu homme. Voilà ma foi personnelle. Les témoins de Jéhovah, que j'appellerai dans cette étude les témoins, basent leur doctrine du salut en grande partie sur leur eschatologie, c'est-à-dire leur doctrine des dernières choses. Charles Taze Russell, le fondateur de la secte, a rejeté lorsqu'il était encore jeune, moins que 18 ans, la doctrine d'une punition éternelle en enfer. À cause de ce rejet, il a commencé à développer son propre système du salut. Et cela a abouti à une doctrine de deux classes de sauvés, annoncée d'abord en 1933 et annoncée officiellement comme doctrine des témoins de Jéhovah en 1935 par la société qu'il avait fondée, la Watchtower Société. En bref, le salut pour le témoin dépend de ses œuvres méritoires et de sa conduite personnelle devant Dieu, et non pas de la grâce de Dieu comme il veut faire croire aux gens. Toutes leurs doctrines ne sont pas fausses, mais leur enseignement est trop souvent contraire à la parole de Dieu. Ce mouvement, et je cite ici un auteur, ce mouvement dépouille le Seigneur Jésus de sa gloire divine, discrédite son œuvre sur la croix pour le salut des hommes et nie sa résurrection corporelle qui est notre espérance. Il n'y a chez les témoins aucun espoir véritable pour l'homme pécheur. Selon eux, le salut s'acquiert par une suite d'efforts personnels. Mais qu'est-ce que le salut pour les témoins? Dans le livre « Assurez-vous de toutes choses », la page 439, ils disent « Le salut, c'est être délivré de la servitude du péché avec la perspective de la vie éternelle. » Bon, cela semble très biblique. Dans le petit livre « La paix et la sécurité véritable », la page 186, il précise un peu plus ce qu'ils veulent dire. Le salut, c'est être délivré ou sauvé du présent système de choses méchantes. Et encore plus loin, sur la même page, ils ajoutent que cette délivrance du présent système de choses méchantes est pour ceux qui désirent vivre dans l'ordre nouveau et juste. Bon, il y a deux questions qui se posent ici. Et je crois que leur doctrine de salut se base sur la réponse de ces deux questions. Premièrement, qu'est-ce qu'ils veulent dire par l'ordre nouveau et juste? Deuxième question, leur enseignement d'un ordre nouveau et juste se trouve-t-il dans la Bible? Et je souligne le mot « leur enseignement ». Pour répondre à ces questions, il faut d'abord comprendre qu'il y a en réalité quatre catégories de personnes dans leur système du salut. Premièrement, il y a ceux qu'ils appellent le petit troupeau. On a déjà vu la plupart de ces détails, mais je les répète à ce moment. Ils appellent ce groupe le petit troupeau, ou aussi les 144 000, et il y a d'autres noms qui les donnent. Ceux qui font partie de ce groupe de privilégiés vont directement au ciel après leur mort, et feront partie du royaume céleste où ils régneront avec Christ éternellement. Voilà l'ordre nouveau et juste pour ce groupe-là. Deuxièmement, il y a ce qu'ils appellent la grande foule, ou les autres brebis, ou les Jonadab, c'est-à-dire ceux qui sont devenus témoins et qui sont restés fidèles jusqu'à la mort, ou jusqu'à la bataille d'Armageddon, qu'ils appellent aussi la grande tribulation. Et cette bataille, pour eux, signale la fin du monde, ou comme ils disent, la fin du présent système de choses méchantes. La grande foule habitera la nouvelle terre, ou comme ils disent encore, le système nouveau des choses, où ils seront chargés d'enseigner le troisième groupe. Et le troisième groupe est formé de ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre la vérité pendant leur vie et qui, après la résurrection qui suit la bataille d'Armageddon, auront la possibilité pendant 1000 ans de devenir de vrais serviteurs de Dieu, c'est-à-dire témoins. Et puis, il y a un quatrième groupe qui est composé de ceux qui ont rejeté la vérité et blasphémé Dieu. Ils seront, ce groupe-là, anéantis. S'ils sont déjà morts, ils ne seront pas ressuscités. S'ils sont toujours vivants à la bataille d'Armageddon, ils seront tués pendant la bataille. Et c'est tout. Ils ne seront plus ressuscités. Bon, j'ajoute un autre détail. C'est qu'après les 1000 ans, il y aura une dernière épreuve où Satan sera relâché pour mettre à l'épreuve, ou tester si vous voulez, les chrétiens ou les témoins qui sont sur la terre. Tous les fidèles seront mis à l'épreuve et ceux qui ne tiendront pas bon seront détruits. Enfin, ceux qui rebellent pendant les 1000 ans, c'est-à-dire avant cette dernière épreuve, seront condamnés et exécutés sur le champ. Il y a plusieurs choses très attrayantes dans ce système de choses, mais il y a aussi plusieurs choses pour moi qui sont très choquantes, surtout si vous lisez bien votre Bible. D'abord, tous les fidèles, selon eux, feront partie des classes dirigeantes. En effet, il y a deux classes de personnes dans le système du salut. La première classe est celle des 144 000, ou appelée aussi le petit troupeau, et règne au ciel avec le Christ. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont choisis arbitrairement et ils n'y vont pas de leur propre choix. Et Dieu ne les choisit pas selon leur mérite, mais il les choisit comme ça. Ils vont au ciel après leur mort. Ils sont privilégiés dans le sens qu'ils n'ont plus de soucis pour leur salut après leur mort, tandis que la deuxième classe, c'est-à-dire la grande foule, doit résister aux tentations pendant cette vie, pendant la bataille d'Armageddon, pendant les 1000 ans et encore pendant la dernière épreuve où Satan est relâché. Cette deuxième classe aura le privilège de régner sur la terre purifiée et sur ceux du troisième groupe, mais elle sera sous les ordres des 144 000 au ciel. Il n'y a pas de vrai réconfort dans tout cela pour moi, sauf bien sûr pour les 144 000. Pendant peut-être plus de 1000 ans, ceux de la grande foule travaillent pour gagner leur salut, et puis, à la fin de cette période, ils peuvent quand même échouer. Ensuite, la doctrine des témoins offre une dernière chance ou une nouvelle occasion de se repentir à ceux qui n'ont pas eu le plaisir de servir Dieu pendant cette vie. Et puis, il n'y a pas de menace d'une punition éternelle. Vous pouvez vous rebeller, blasphémer, ou comme dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, le verset 29, fouler aux pieds le Fils de Dieu, tout ce que vous voulez pendant cette vie, mourir tranquillement dans votre lit, et c'est tout. Si vous êtes encore vivante à la bataille d'Armageddon, vous serez simplement détruit sans avoir craindre à une punition plus sévère par la suite. Si vous vous rebellez pendant les 1000 ans, vous êtes exécuté, mais encore, vous n'aurez pas à redouter d'autres punitions. Et c'est le même résultat pendant la dernière épreuve. Tout ce que je viens de vous présenter est très beau pour certains, peut-être. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout biblique. D'abord, la Bible ne regroupe jamais les chrétiens en classes différentes. Jésus prie en Jean chapitre 17 que tous soient un et ne fait pas de distinction entre ses apôtres et ses autres disciples. Bon, on peut dire ici qu'il parle bien sûr de leur but. Ils sont un dans le but qu'ils ont. Mais aussi, ils sont un dans le fait qu'ils sont tous membres du corps du Christ. Et il veut qu'on garde cette unité dans le corps. Il n'y a pas de distinction. Paul non plus ne fait pas de distinction lorsqu'il parle des dons spirituels, par exemple en 1 Corinthiens chapitre 12 à 14. Et en Galates chapitre 3, les versets 26 à 29, il est bien clair qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Toutes les distinctions ont été éliminées par la mort de Jésus. Et si vous voulez voir cela, lisez Éphésiens chapitre 2, où il en parle en effet de ces distinctions. Devant Dieu, nous sommes tous égaux et nous avons tous la même espérance, comme dit Paul en Romains chapitre 5, les versets 1 à 5. Ensuite, la Bible ne souffle le mot au sujet d'une dernière chance ou d'une nouvelle occasion pour se repentir. Tous les avertissements de la Bible contre le péché visent cette vie présente, car après vient le jugement. L'Épître aux Hébreux est assez clair, je crois. En Hébreux chapitre 9, les versets 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Paul, dans son sermon à Athènes, a déclaré ceci, c'est en Actes chapitre 17, les versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Encore, l'avertissement des Écritures, c'est contre le péché dans cette vie, parce qu'après cette vie vient le jugement. Et puis, en ce qui concerne la punition éternelle, on a déjà vu cela dans l'étude d'hier après-midi, la première étude, la mort, l'enfer, l'âme. La punition éternelle, Jésus en parle en Matthieu 18, le verset 8, quand il décrit ce que mérite celui qui ne se contrôle pas lui-même. Et puis, Hébreux chapitre 10 est assez clair aussi au sujet d'une punition sévère pour les rebelles. Et là, il s'agit des chrétiens qui se rebellent contre le Christ. Selon les témoins, il y a de grandes différences, de grandes distinctions entre les 144 000 et la grande foule, les distinctions que la Bible ne fait pas. En plus, il existe une autre différence en ce qui concerne le péché. On va voir cela un moment. Si je comprends bien leur doctrine, selon eux, tous les humains portent le péché d'Adam en plus de leur propre péché. Le sacrifice de Jésus, selon leur doctrine, avait d'abord pour but d'éliminer les effets du péché d'Adam. La personne profite de ce sacrifice par son adhésion aux doctrines des témoins. Dieu, semble-t-il, ferme les yeux, plus ou moins, sur les péchés personnels si le disciple est fidèle. Aussi longtemps qu'il travaille à propager leur doctrine, ses péchés ne lui sont pas comptés, mais sont effacés ou éliminés petit à petit. C'est par sa foi et son obéissance qu'il est pardonné. Ce n'est pas Dieu qui les pardonne en fin de compte. Même pendant les 1000 ans, le témoin fidèle doit travailler afin d'éliminer les traces de ses péchés et de leurs effets sur son corps. Et voici ce qu'ils disent. Je lis de leur livre « La vie a bien un but », les pages 169 à 170. Les membres de la grande foule ne seront pas rendus parfaits aussitôt après la grande tribulation. Cependant, grâce à leur foi et à leur obéissance, ils constitueront le fondement de la nouvelle terre. Ils sont toujours pécheurs. Après avoir passé par les épreuves de cette vie, les épreuves de la bataille d'Armageddon, et maintenant ils sont toujours pécheurs, et pour là, il faut éliminer le péché pendant les 1000 ans, en travaillant. Pour les témoins, le baptême est associé au salut, mais n'a rien à voir avec le pardon des péchés. Je lis de leur livre « La paix et la sécurité véritable, d'où viendront-elles ?» à page 185. Les Écritures associent le baptême au salut. Ce n'est pas l'eau du baptême qui sauve les baptisés, mais les candidats au baptême recherchent le pardon divin de leurs péchés pour avoir une conscience pure devant Dieu. Dans un autre de leur livre, « La vérité qui conduit à la vie éternelle », à page 182, ils expliquent que le pardon vient par la prière. Si on croit, on prie, et Dieu pardonne. Pourtant, Paul dit que nous sommes sauvés ou justifiés par la foi. Donc, qu'est-ce que dit l'apôtre Pierre au sujet de notre salut, du pardon de nos péchés? On va lire ce qu'il dit, c'est en 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Cette eau, c'est-à-dire l'eau du déluge, dont il vient de parler. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Quelle est donc la signification du baptême pour le témoin s'il n'est pas pour le salut? Bon, je cite leur réponse à cette question tirée du livre La vérité qui conduit à la vie éternelle, la page 183. Celui-ci, c'est-à-dire le baptême, ne lave pas le péché originel, car seule la foi en Jésus-Christ peut nous purifier de nos péchés. Le baptême est une démonstration publique attestant que le baptisé s'est voué solennellement à Jéhovah Dieu et qu'il se présente pour faire sa volonté. Dans le livre du paradis perdu au paradis reconquis, les pages 242 à 247, sont présentées des étapes à suivre pour avoir la faveur divine. Et notez bien, il ne dit jamais pour être pardonné, mais pour avoir la faveur divine, parce que le pardon du péché ne fait pas grand partie de leur système. Premièrement, selon eux, pour avoir la faveur divine, il faut vous appliquer à l'étude de la Bible. Bon, c'est très bien, je suis entièrement d'accord. Mais combien de fois avez-vous étudié avec un témoin qui se sert de la Bible seule et ne se réfère pas à leurs écrits officiels pour ses réponses à vos questions ou pour ses explications? Ils ne sont pas libres de répondre pour eux-mêmes selon leur compréhension des Écritures. Il faut qu'ils aillent à leurs écrits officiels. Il ne faut pas oublier que quand ils disent « vous appliquez à l'étude de la Bible », ils veulent dire « à la lumière de leurs écrits », toujours. Deuxièmement, il faut se réunir, selon eux, avec ceux qui partagent la même connaissance et la même foi. Encore, je suis entièrement d'accord. Encore, il faut demander si c'est une foi biblique qu'ils ont. Est-ce qu'ils croient au Christ divin d'abord? Jésus prie en Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Troisièmement, il faut se repentir selon les étapes qu'il donne. Cela implique, selon eux, se soumettre à la volonté de Dieu et aussi de se tourner du péché. Et ici, ils ont raison. Parce que faire demi-tour fait partie de la repentance aussi bien que la soumission. Je me soumets à Dieu, je me détourne du péché, c'est la repentance. Quatrièmement, vient le baptême comme signe de son dévouement à Dieu. Et jusqu'au baptême, tous les témoins sont égaux. Après le baptême, Dieu choisit ceux qui feront partie des 144 000 qui vont au ciel. Ceux qui feront partie de la grande foule, eux, ils sont condamnés en quelque sorte à se sauver eux-mêmes en accomplissant beaucoup d'œuvres durant les quatre grandes épreuves. Celle qu'est cette vie, celle de la bataille d'Armageddon, celle du règne millénaire et celle de la dernière épreuve de Satan. En somme, le baptême pour la grande foule est la clé pour survivre à la bataille d'Armageddon, mais n'a rien à voir avec le pardon de leurs péchés, comme ils ont dit. Mais je me demande cette question, où est l'espérance dans tout cela? Jésus n'a-t-il pas promis par l'intermédiaire de Paul qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent selon l'Esprit? Romains chapitre 8, le verset 1. Sous le système des témoins, on n'est jamais assuré de son destin final, bien que le livre porte des titres tels que « Assurez-vous de toutes choses »,« La vie a bien un but »,« du paradis perdu au paradis reconquis, la paix et la sécurité véritables, un avenir assuré et le dessein de Dieu réussi. Si le dessein de Dieu a réussi, où est la vraie assurance pour le témoin? Nulle part. Parce qu'il doit travailler, surtout les, bien sûr ceux de la grande foule, pendant cette vie, la bataille d'Armageddon, les 1000 ans, et puis la dernière épreuve. Et il n'est jamais assuré de son destin, de son sort. Les témoins ont le même problème que les musulmans. Je peux ajouter, ils ont le même problème que les bouddhistes, les hindous, les catholiques, les juifs. Tous ceux qui ont un système de mérite, où ils essaient de mériter le salut par les œuvres qu'ils font. Ils ne sont jamais sûrs de leur destin. Est-ce qu'ils ont fait assez pour être sauvés? Voici une citation de leur livre, « La vie a bien un but ». La page 175. À la fin des 1000 ans, les dernières traces du péché et de la mort auront été éliminées. Mais signifie-t-il qu'ils ne pourront plus pécher? Non, car la Bible révèle que les humains parvenus à ce stade ne recevront l'assurance de la vie éternelle que lorsqu'ils auront prouvé leur fidélité à Dieu, lors de la dernière attaque de Satan. Je crois que le chrétien a la certitude que quand il meurt, il ressuscitera pour la vie éternelle au ciel. Et je voudrais consacrer le reste de notre temps à une proclamation de cette assurance. Il n'y a pas de doute que nous avons tous besoin du pardon de nos péchés. La Bible en parle du péché de l'homme de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. En effet, si vous voulez, le sujet de la Bible, le grand thème de la Bible, c'est le salut de l'homme. Dieu veut sauver les hommes. Mais qu'est-ce que le péché selon la Bible? Parce qu'on a plusieurs définitions dans le monde actuel. 1 Jean chapitre 3, verset 4 nous dit que c'est une transgression d'une loi de Dieu. Et cette transgression peut se faire de deux manières. Soit je fais ce que Dieu a défendu, soit je ne fais pas ce que Dieu a ordonné. Jacques dit dans son épître, chapitre 4, verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Pas une seule personne en mesure de connaître la différence entre le bien et le mal n'est sans péché, sauf bien sûr Jésus. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, Paul explique que le païen, c'est-à-dire le non-juif, est sans excuse parce qu'il n'a pas reconnu son Créateur. Au chapitre 2 de l'Épître aux Romains, il explique que le juif n'est pas mieux. Il était infidèle à son Dieu, bien qu'il eût la loi, la circoncision et les prophètes. Et puis, au chapitre 3, Paul résume sa pensée en disant que tous ont péché. Tous ont péché. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Chapitre 3, le verset 10.